Bonjour mes frères et sœurs. Je pense que vous êtes, comme tous les chrétiens, vous cherchez la vérité et il y a une grande question qui se pose toujours, mais comment se fait-il qu'un Dieu d'amour ait pu créer le diable? Comment se fait-il que Dieu laisse faire toutes ces horreurs qu'on voit sur la terre, les guerres, le pillage, je pense en particulier à l'Afrique, l'esclavage, les meurtres, les pédophiles, toutes ces horreurs, toutes ces souffrances, ces maladies. C'est une question qu'il faut affronter bien en face, mais qui n'est pas facile à avaler. La réponse n'est pas facile à avaler. Et aujourd'hui, devant les questions que beaucoup me posent sur Révélation Bible, je vais vous répondre dans la mesure de ma connaissance des Écritures, parce qu'il faut toujours avoir des réponses dans les Écritures et non pas dans les « moi je pense que » mais dans les Écritures. Et alors évidemment, vous allez me dire, mais on peut interpréter les Écritures. C'est vrai que la Bible, il y a des gens qui lui font dire ce qu'elle ne dit pas, mais aujourd'hui, vous allez voir que ce que je vais vous révéler là, c'est vraiment partout dans la Bible, et que ça ne fait pas un pli. Vous allez savoir d'où vient justement le mal et toutes ces choses. Prions. Seigneur Jésus, je te prie que tu m'aides à être clair, afin que personne ne parte dans des divagations ou le refus sans réfléchir, mais que chacun puisse être conséquent avec ces choses, pour que la vérité puisse être connue par les tiens. Je sais que tu veux révéler la vérité aux tiens. Et je te bénis pour cela, mon Dieu. Je te prie, dans le nom béni de Jésus-Christ, ton Fils, pour que cette prédication soit utile pour beaucoup. Voilà pourquoi. Pourquoi Dieu laisse-t-il se produire toutes ces atrocités? Vous savez que j'ai l'occasion, depuis 20 ans maintenant, d'aller beaucoup en Afrique et je vois une pauvreté extrême, alors que ce sont des pays qui sont riches, mais qui sont exploités. Et qui sont tenus dans la pauvreté. Et pour moi, c'était un choc, et c'est toujours un choc, c'est toujours terrible de voir ce malheur. Mais il n'y a pas que ce malheur. Hier, je suis allé voir un frère à l'hôpital, et quand on voit comment l'homme peut souffrir, mais c'est terrible, c'est terrible. Voilà, ça fait... On se pose des questions, n'est-ce pas? Alors ce que je vais vous dire, c'est pas simple, c'est loin d'être simple. Il va falloir changer quelques conceptions que vous avez au sujet de Dieu. Au commencement, parce qu'il faut bien commencer au commencement, parce que c'est de là, tout vient là, au commencement. Et d'ailleurs, en Dieu, il n'y a pas de commencement, puisqu'il est éternel. Mais avant d'avoir créé les cieux et la terre, il n'y avait que celui que nous appelons notre Père, l'Éternel. Quelqu'un m'a fait remarquer dernièrement que le mot Dieu, normalement, n'est pas dans la Bible. Faut pas chipoter sur les mots. C'est notre Père éternel, n'est-ce pas? Voilà. Tout était en lui. Avant la création du monde, tout était dans cet être unique, celui que nous appelons notre Père céleste. Tout était en lui. Le bien et le mal. Écoutez bien ça, parce que ça n'est pas simple pour moi de vous l'annoncer. Il faut que je fasse très attention à ce que je dis et il faut que vous soyez très attentifs. Dieu créa tout, c'est-à-dire qu'il a extériorisé tout ce qu'il avait en lui dans les matières. Je dis bien les matières parce qu'il y a toutes sortes de matières. Vous avez des matières solides, vous avez des matières plus subtiles et la première chose que Dieu créa, ça va peut-être commencer déjà à grincer, et la première chose que Dieu créa, c'est lui-même. On trouve dans Colossiens 1, 15, je vous le lis. Le Fils, donc Jésus, est l'image du Dieu invisible. Il est donc Dieu, celui qui est invisible, mais il en est l'image. Il n'y a pas deux ou trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu, et Jésus, il est l'image, la représentation physique. Dieu, donc le Fils, est l'image du Dieu invisible. Ensuite, il continue en disant « le premier-né de toute la création ». C'est ce que je vous disais, la première chose que Dieu a faite, c'est de se créer lui-même, c'est-à-dire quand il a voulu avoir une création, quelque chose face à lui, quelque chose dans la matière, il a créé Jésus en premier. En effet, l'apôtre continue, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, c'est-à-dire en Jésus, le premier-né de toute la création, c'est en lui que tout a été créé. Le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu, notre Père, a voulu que toute sa plénitude habite en lui, donc en Jésus. Il a voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé à la croix. Et vous qui étiez autrefois des étrangers et des ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils, dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Donc, Jésus est l'image du Dieu invisible. Et c'est Jésus qui a tout créé, ça a été créé par lui et pour lui. Pour lui. Il n'a pas créé tout ça pour nous, il l'a créé pour lui. Maintenant, pourquoi Dieu créa tout? Parce que c'est bien écrit, il a créé toute chose. Hein, toute chose. Tout. Alors attention, accrochez-vous. Dieu créa tout pour pouvoir se débarrasser de quelque chose qui était en lui, dont il ne voulait pas. Alors, comment est-ce que je peux savoir cela? Il y a beaucoup de textes qui en parlent, mais le principal, c'est au début, au commencement, dans Genèse 3, 22, il est dit, l'Éternel dit, Adam et Ève venaient de chuter, ils venaient de désobéir à Dieu dans le jardin d'Éden, et l'Éternel Dieu dit, voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Il faut oser voir ça en face. Dieu dit ce qu'il dit. Et il n'y a pas besoin d'interpréter ce qu'il dit. Dieu dit qu'après la chute de Adam et Ève, l'homme est devenu comme lui, comme Dieu, pour la connaissance du bien et du mal. Et quand Satan a dit « Mais au contraire, tu peux manger du fruit défendu, parce que quand tu en auras mangé, tu seras comme lui. » Il mentait pas. Il mentait pas. Ça signifie que Dieu, alors qu'il était seul, connaissait le bien et le mal. C'était en lui. C'était pas manifesté, mais c'était en lui. Mais il n'y avait pas que le mal, il y avait aussi l'amour, il y avait la guérison, et toutes ces choses. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il aime? Il n'y avait rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'il guérisse? Il n'y avait pas de malade. Qu'est-ce que vous voulez? Vous comprenez? Tout était en lui, mais non manifesté. Alors il a décidé, avant la création du monde, de matérialiser ce qui était en lui, afin de pouvoir se débarrasser de ce qu'il n'aimait pas en lui. Il a créé toute chose dans un but. Lequel? Celui de se débarrasser de ce qui est méchant, inutile, frustrant, désagréable, cette sorte de choses. Ah bon, Michel, qu'est-ce que tu nous racontes? Eh bien oui, prenons Proverbe 16, 4, il est dit, « L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur, c'est-à-dire de sa destruction. » Oui. En fait, vous savez, la matière, en réalité, ce n'est que de l'énergie, excusez-moi le terme, mais comprimée, vibrant moins vite que la normale. Mais tout est formé par les mêmes choses, par les mêmes ingrédients. L'énergie. Alors voilà que Dieu a créé le méchant, c'est-à-dire le diable, hein, et le mal s'est incarné. Il a mis le mal dans un être de chair, dans un serpent. Pas les serpents que vous voyez dans vos champs ou dans des graviers, non, pas comme les serpents d'aujourd'hui. Ce serpent, le diable, était un être qui ressemblait à Adam. La Bible nous dit que c'était un être qui marchait sur ses deux pattes, il était debout. Et il parlait, il a pu séduire Ève. Vous trouverez tout ça dans Genèse au chapitre 3. Le serpent a séduit Ève. Et puis, Ève a eu ensuite une relation avec Adam. Et dans son ventre, il y avait deux semences. Celle que le serpent a mis en Ève, ça, je sais que là, plein de théologiens ne me croient pas quand je dis ça, et celle qu'Adam a mis en Ève. Et puis Ève a accouché. On va lire Genèse chapitre 4. Alors, Genèse chapitre 4, verset 1. Adam eut des relations conjugales avec sa femme, Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Alors tout le monde pense, ben voilà, c'est écrit noir sur blanc, Adam a eu des relations conjugales avec sa femme, elle tomba enceinte et elle mit au monde Caïn. Oui, mais ensuite c'est pas écrit, et puis il a eu encore une relation avec elle et elle a mis au monde Abel. Non, c'est écrit, puis elle accoucha aussi de Abel. Ça veut dire que Caïn et Abel étaient des jumeaux, mais qui n'étaient pas du même père. Vous voyez, le premier qui est venu au monde, c'était Caïn. Puis il mit au monde Abel. C'était caché pendant des siècles, mais écrit quand même. Mais il fallait que Dieu révèle ces choses pour rétablir toutes choses, pour rétablir la connaissance telle que il le dit dans Acte 3, il faut que toutes choses soient rétablies. On va lire Genèse 3, 14, 15, pour que vous compreniez mieux. Une fois que le serpent a séduit Ève, c'était pas avec une pomme, hein, il n'y a pas de question de pomme dans la Bible. L'Éternel dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Alors écoutez bien, « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Donc, le diable a une descendance, et puis la femme a une descendance. Alors, en général, on parle de la descendance de l'homme, mais il y a eu une descendance qui a passé directement par la femme sans l'intervention de l'homme, c'est Jésus. La descendance de la femme, Jésus, a écrasé la descendance du serpent. Vous comprenez ? Jésus, la descendance de la femme, a écrasé la descendance du serpent. Et tous les deux venaient de la femme. Vous voyez, le premier qui est venu, c'était Caïn. Et puis, vous savez ce qui s'est passé ensuite, Caïn a tué son frère, enfin bon. Ève se vante d'avoir mis au monde ces êtres-là avec l'aide de Dieu. Hein, vous trouvez ça dans Genèse 4, 1. Elle dira, ah, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Ben, elle ment, oui et non, parce que en fait, elle a souffert. La Bible dit, Dieu lui a dit, tu souffriras les douleurs de l'enfantement, pour toi, ça sera terrible. Et elle a eu, c'était terrible pour elle, c'était la première femme qui a accouché, elle ne savait pas trop ce qui lui arrivait. Et elle dit, mais Dieu m'a aidé, comme n'importe qui dit, Dieu m'a aidé. Hein, moi, j'ai même connu une prostituée qui disait, ah, depuis que je suis convertie, eh ben, Dieu m'aide, j'ai que des clients qui sont beaux. Oui, on peut mettre Dieu à toutes les sauces. Et là, Ève, moi, je ne fais pas confiance à ce que Ève dit. Je regarde ce que la Bible dit. Et Ève dit, oui, c'est vrai, j'ai donné la vie à un homme avec l'aide de l'Éternel, mais en fait, bon. Elle ne ment pas, mais elle ne dit pas que Caïn et Abel sont des jumeaux et que Caïn était du serpent. Elle ne le dit pas. Il faut que ces choses soient cachées. Et vous allez comprendre pourquoi. Et maintenant, il faut qu'elles soient révélées. Maintenant, voyons si Jésus révèle ça. Si Jésus est d'accord avec ce que je vous dis. Si Jésus, quand il est venu dans le monde, a mis de la lumière sur cela. Alors, on va prendre dans Matthieu, chapitre 13, verset 10. Matthieu 13, 10. Voilà ce qui est écrit. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, mais pourquoi est-ce que tu parles en parabole? Et Jésus leur répondit, parce que il vous a été donné à vous, dit les disciples, ceux qui ont tout quitté pour le suivre, parce qu'il était donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux, ça n'a pas été donné, aux gens, au commun des mortels, ça n'a pas été donné. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a, ou dans d'autres versions, ce qu'il croit avoir. C'est pourquoi, hein, je leur parle en parabole, parce que voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Jésus ne voulait pas que tout le monde comprenne tout ce qu'il dit. Mais à vous, qui êtes ses disciples, il veut que vous compreniez. Ensuite, il continue, il dit, pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, donc c'est-à-dire pour les gens qui ne sont pas ses disciples, pour les gens qui ne sont pas les suiveurs de Jésus, il dit, voilà, pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent et que leur cœur comprenne qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ils ont peur de se convertir et ils ont peur d'être guéris par Jésus. Ils veulent rester dans leur état. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Voilà ce que Jésus disait à ses disciples. Est-ce que vous avez bien compris? Jésus parle de façon à ne pas être compris par tous. Il fait exprès. Il donne donc une parabole que les gens peuvent interpréter à leur guise, ce qui fait qu'il y a tant de religions différentes et que pourtant nous n'avons qu'un seul livre, la Bible. Mais à ses disciples, il donne l'explication en privé. On va lire Matthieu chapitre 13, verset 24 maintenant, si vous voulez bien. Jésus leur proposa une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi, et les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Mais Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe? » Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Vous voyez, il se pose la même question que tout le monde, mais comment ça se fait qu'il y a du mal? Comment ça se fait qu'il y a de l'ivraie? Et Jésus dit, c'est un ennemi qui a fait ça. Les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher, arracher l'ivraie, arracher ce qui n'est pas bien? Non, 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 dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alors voilà, ça c'est ce que Jésus dit à la foule, hein, on a vu ça, il propose une parabole, et il leur dit ça. C'est une parabole donnée à tous les gens qui étaient là et qui écoutaient, et que n'importe qui pouvait interpréter, dire « Ah, mais moi je pense qu'il a voulu dire ceci, il a voulu dire cela ». En fait, les gens interprètent comme ils veulent. Mais Jésus donne la vraie interprétation à ses disciples, pas à tout le monde, mais juste à ses disciples. On va lire Matthieu 13, 36, 43, c'est-à-dire un bon moment après. Alors, Matthieu 13, 36. Alors Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. C'est-à-dire, il a parlé devant la foule, ensuite il renvoie la foule et il rentre dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui en disant, explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. Parce que les disciples, ils ont eu peur d'avoir compris. Alors ils veulent être sûrs que ce qu'ils ont entendu, c'est bien la vérité. Alors il leur dit, explique-nous. Ils sont juste là, en comité restreint, Jésus le maître et ses disciples, et ils disent, explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. Alors il leur répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Hein, on a vu tout à l'heure que Jésus est le Créateur. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume de Dieu. La mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal, ou dans d'autres versions, du malin. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. Donc le diable a bien une semence, le serpent a bien une semence. Et la semence du serpent aura sa tête écrasée par la semence de la femme qui est Jésus. Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit? Alors je reprends. L'ennemi qui a semé cette mauvaise graine, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Tout comme on arrache la mauvaise herbe et qu'on la jette au feu, on fera de même à la fin du monde, à la fin. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils arracheront de son royaume tous les pièges et tous ceux qui commettent le mal. C'est-à-dire, c'est dans son royaume. Tout ça appartient à Dieu, mais le mal est entré. Et ils jetteront dans la fournaise de feu, où il y a des pleurs et des grincements dedans, donc tout ce qui est mal. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ouf. Est-ce que vous avez des oreilles pour entendre ou pas? Jésus dit à ceux qui sont ses disciples, qu'ils écoutent, qu'ils croient, que le monde est rempli d'êtres humains qui n'ont pas le même Père. Les uns ont été semés par Dieu et les autres ont été semés par l'ennemi qui est le diable. Il y a donc deux semences sur cette terre, deux sortes d'êtres humains. Le diable est venu et il a semé sa semence, et sa semence est appelée les fils du diable, les fils du mal, ou les fils du mauvais, ça dépend les versions. Par exemple, dans la version officielle catholique, la dernière qui vient de sortir, c'est écrit les fils du mauvais. Il y a donc dans ce monde de l'ivraie et du bon grain. Mais l'ivraie ne deviendra jamais du bon grain. Et le bon grain ne deviendra jamais de l'ivraie. L'ivraie, elle peut faire semblant, elle peut être religieuse, si vous voulez. Elle peut connaître la Bible par cœur, mais elle est de l'ivraie, c'est sa nature. Parce que son père, son géniteur, celui qui l'a créé, c'est le diable. Les fils de Dieu et les fils du diable poussent ensemble. Mais au début, on ne distingue pas vraiment l'ivraie du bon grain. Il faut que tout ça mûrisse, il faut attendre la moisson. Vous voyez, si vous allez un peu à la campagne, si moi j'avais devant chez moi, on avait un champ de blé tous les ans. Eh bien, tant que ça pousse un peu comme de l'herbe, hein, Et puis après, il y a des feuilles, mais c'est quand il y a le grain, quand il y a le fruit, qu'on s'aperçoit, ah, ça, c'est du blé, ah, ça, c'est de la mauvaise herbe. Et il faut que ça pousse ensemble. Et c'est ce qui se passe en ce moment, ça pousse ensemble. Vous avez sur cette terre des gens qui sont des fils du diable, vous en avez d'autres qui sont des fils de Dieu, et ça pousse ensemble. Et de nos jours, tout est mûr. Les anges de Dieu vont venir pour arracher l'ivraie et la détruire par le feu. Mais ils ne jetteront pas le blé, ils ne jetteront pas les fils de Dieu. Les fils de Dieu sont les fils de Dieu, dès avant la fondation du monde. Et voilà la fin du mal, la destruction du mal sous toutes ses formes. Alors oui, c'est bien Dieu qui a créé le diable. Il l'a fait dans un but, celui de le détruire. Alors, de nos jours, on n'a pas à juger qui est l'ivraie et qui est le bon grain. On aurait tendance des fois à dire « Oh, celui-là, c'est vraiment diabolique. » Non, 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 il ne faut pas juger. Jésus nous interdit de juger. On ne peut pas porter un jugement sur les gens comme ça. Que les anges qui c'est les anges qui feront la moisson, qui feront le tri, c'est pas nous. Nous, on peut se tromper. Regardez, par exemple, je vous donne un exemple. L'apôtre Paul, qui respirait le meurtre, qui allait de lieu en lieu, persécutant les chrétiens, ben, c'était un fils de Dieu. Voilà, c'était un fils de Dieu, il a fini par se convertir, c'était un fils de Dieu. Mais pendant longtemps, on aurait pu penser, ah ben lui, c'est vraiment livré, c'est vraiment du diable. Judas, par exemple. Judas, le beau Judas, avec ses mains blanches, qui allait prier pour les malades, chasser les démons, il était avec Jésus, c'était merveilleux. Ben, c'était un fils du mal, hein. Il me dira, bon, ben oui, c'est écrit dans Jean, chapitre 6. Attendez, je trouve ça. Jean, chapitre 6, c'est verset... verset 70, je crois. 6, 70. Voyons. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, ou les douze, et l'un de vous est du diable. » Comme Caïn, d'ailleurs. Dans 1 Jean 3,12, c'est clairement dit, n'est-ce pas ? Dans 1 Jean 3,12, je vous le lis. 1 Jean 3,12. N'imitons pas Caïn qui était du mal, ou du malin, ou du diable. Ça dépend les versions. Là, ils ont un peu édulcoré en disant il était du mal. Mais il était du mal, hein. Les gens ont de la peine à croire ça parce qu'on leur a tellement raconté que Ève, elle a mangé une pomme et puis que c'est depuis là que... Il y a une semence du serpent qui est en hostilité avec la semence de la femme. Une semence du serpent ? Qu'est-ce que c'est que cette semence ? Une descendance. Une descendance. Alors voilà la vérité révélée par la Bible au sujet de l'origine du mal. Alors maintenant, si c'est pas ça, parce qu'il y a beaucoup de théologiens qui nient ce que je suis en train de vous dire, eh bien, qu'ils me démontrent, mais alors Bible en main, comment le mal est apparu et pour quelle raison ? Est-ce que Dieu s'est trompé quelque part ? Est-ce que Dieu a dit, oh, flûte alors ? Mince, voilà que le diable, que Lucifer me roule, me trompe, oh, dame Ned. Non, Dieu n'était pas surpris, c'était prévu. Il a tout créé pour un but, même le méchant, pour le jour du jugement, le jour de la fin. Alors, réécoutez ce message et méditez, réfléchissez. Demandez à notre Père Céleste, au nom de Jésus-Christ son Fils, si ces choses sont vraies. Et si vous cherchez avec l'intention de comprendre la vérité, le Saint-Esprit vous révélera que c'est vrai. Il y a juste encore une chose que je voudrais vous dire. Vous rappelez, je ne sais pas où est le texte, ça me vient à l'idée là tout d'un coup. Vous vous rappelez le jour, le soir où ils ont pris la Sainte Cène, Jésus a dit que quelqu'un là va le trahir. Et ils ont tous dit, mais est-ce que c'est moi, est-ce que c'est moi ? Et Jésus dit, celui à qui je donnerai le pain trempé dans le vin, c'est lui qui me trahira. Et il est dit qu'il a tendu du pain trempé à Judas. Et qu'à ce moment-là, quand Judas a pris le pain, le diable est entré en lui. On peut dire que Judas était un fils du diable, mais que Jésus a permis, a ouvert la porte pour que le diable entre en lui afin de l'aider. Que le diable puisse venir aider Judas à faire ce qu'il avait à faire, vendre Jésus, parce que Judas avait quand même en lui cette affection pour Jésus. Mais Jésus a donné ce pain trempé à Judas afin que ça a ouvert la porte pour que le diable puisse entrer en lui. Et Jésus lui dit, maintenant, va faire ce que tu as à faire. Vous voyez? Ça paraît bizarre, hein? Ça paraît bizarre. Quand on prend les Écritures, il y a des gens qui disent, ah, moi, j'ai pas besoin de lire la Bible. Faites comme vous voulez, mais quand on lit la Bible, on apprend tellement de choses. Et là, ce que je viens de vous dire aujourd'hui, c'est formidable. Parce que vous réalisez que maintenant, il y a la semence du serpent qui est sur cette terre et qui met la panique totale, le désordre, les crimes, le vol, les viols, les méchancetés, les maladies, les tourments. Tout ça vient du diable et Satan est le prince de ce monde. Mais Jésus va revenir et il va détruire les œuvres du diable et tous ces êtres-là qui ne sont pas de lui, qui ont un père qui n'est pas notre Père Céleste, mais qui est le diable. Voilà, je voulais vous le dire afin que ça soit clair dans votre pensée. Maintenant, pourquoi est-ce que nous, les enfants de Dieu, nous avons des tendances mauvaises? Eh bien, parce que quand Abel est né, il est né lui aussi dans le péché, dans le sens que Ève et Adam avaient déjà fauté et qu'ils étaient déjà, dans le processus de la mort et tout son cortège de misère. Et puis ça nous est resté. Maintenant, vous savez, comment on appelle ça? Les gens qui s'occupent du cerveau, le mot m'échappe là. Eh bien, ils ont trouvé que dans l'être humain, il y a ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Reptilien? Oui, monsieur. C'est quelque chose de terriblement animal, le serpent. On a tous quelque chose du serpent en nous. Et quand nous nous convertissons, Dieu nous donne par le Saint-Esprit d'avoir l'autorité sur ces mauvaises pulsions, sur ces choses mauvaises qui nous tentent. Nous sommes tentés, mais pas au-delà de nos forces. Et avec la tentation, Dieu nous donne le moyen d'en sortir. Mais nous avons ça en nous. Mais par la nouvelle naissance, Dieu efface nos péchés et il ne tient pas compte de nos fautes et de tout ça parce qu'il nous voit au travers du sang de Jésus, de son Fils. Mais ça ne veut pas dire qu'on est parfait. C'est pas parce que Dieu est notre Père que nous sommes parfaits, parce que nous avons été souillés en même temps avec ce que Ève et Adam ont fait. Et voilà. Donc, cherchez pas à midi à 14h. Ou alors, au contraire, cherchez. Et puis, si vous trouvez quelque chose de biblique à me dire, je serais tout à fait content de l'entendre. Mais ça m'étonnerait que vous trouviez quelque chose. Vous savez, ça fait depuis 68 que je lis la Bible, que je cherche, que je rencontre des gens, des théologiens de toutes sortes, de tous bords, et jamais j'ai entendu quelque chose qui puisse tenir la route au sujet de l'origine du bien et du mal. Tout était en Dieu avant la création. Il l'a manifesté et il a même créé le méchant afin de pouvoir le détruire. On pourrait résumer ça comme ça. Que Dieu vous bénisse, soyez conséquents et réfléchissez. Et puis maintenant, sachant ces choses, séparez-vous du mal. Au nom de Jésus, amen. Merci mon Dieu de m'avoir donné d'être clair, j'espère. D'être clair et que mes frères et sœurs aient pu comprendre et que ceux qui ont des oreilles puissent comprendre et puis ma foi les autres... peut-être ça viendra un peu plus tard. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Au revoir.